Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Quand je contemple le ciel, les œuvres de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un homme comparé aux galaxies? Si petit, on ne nous voit même pas. Qu'est-ce qu'un homme comparé à la nature? Nous cherchons à dompter la nature. On peut construire des murs. Lorsque l'eau vient, elle défonce tout, elle déchire tout. Qu'est-ce que l'homme face à la nature? Qui sommes-nous comparés à la grandeur de Dieu? Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas grand-chose. Fait de poussière, si fragile, et pourtant, Dieu nous invite à contempler sa gloire, à voir ses merveilles, grandir devant nous la majesté des montagnes et des cieux. Il désire partager cela avec nous, mais plus encore, il souhaite vivre une relation intime avec nous, celui qui a tout créé. Même la plus belle des relations qu'on pourrait avoir avec un être humain n'équivaut en rien à ce que Dieu souhaite avoir avec chacun d'entre nous. Et quelle est notre réaction face à tant de bonté? Comment réagissons-nous? Comment réagissez-vous? Quelle est notre réponse devant cette invitation manifestée en Jésus-Christ? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. D'ailleurs, on doit toujours faire avec le temps. J'ai du travail qui m'attend. Je suis mon propre Dieu. Pas besoin d'un autre Dieu. D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Pourquoi êtes-vous ici? Oui, tu existes. Mais laissez-moi faire ce que je veux. Laissez-moi l'adorer de la manière dont je veux, comme ça m'arrange, comme je souhaite. Laissez-moi mettre Dieu dans une boîte, c'est plus facile. C'est ce qu'on essaye de faire des fois. Et pourtant, vous savez, tout le monde adore. Tout le monde cherche à adorer quelque chose. Ça a été prouvé des anthropologues. On fait une étude dans le monde entier et on découvre que toutes les tribus, dans toutes les nations, adorent quelque chose. Ils cherchent à adorer quelque chose, comme si au fond de nous, on voulait adorer quelque chose. Pour certains, des statues, pour d'autres, des fleurs, pour d'autres, peut-être, des accomplissements, pour d'autres, simplement, des personnes, pour d'autres, des habits, peut-être ce nœud papillon. On va adorer quelque chose. On cherche tous à adorer, comme si c'était écrit dans notre ADN. Mais oui, c'est écrit dans notre ADN, en effet. Et la science le prouve. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et c'est ce qu'il dira à Satan, alors qu'il sera pour la première fois envoyé pour son ministère, alors que le Saint-Esprit descend sur lui. Directement, il est envoyé pendant 40 jours dans le désert à être tenté. Et que va-t-il dire à Satan lorsqu'il vient le tenter? Il va lui dire, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Satan, il savait déjà, il est venu pour essayer de faire, « Mais viens, mais détourne-toi. Il y a sûrement quelque chose d'autre que tu peux adorer. Tu peux peut-être aimer la nature, tu ne veux pas la gloire pour toi. » Non, 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 seulement Dieu reçoit la gloire. Amen. Seulement Dieu reçoit la gloire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des adorateurs en esprit, en vérité. Voici mon titre de ce matin, des adorateurs en esprit, en vérité. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Suis-je un adorateur, une adoratrice en esprit, en vérité? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Parce qu'on le met, on le dit, on peut le lire, mais est-ce que vous-même, vous vous êtes déjà placé devant Dieu et posé cette question au Seigneur? Oui, non, je ne sais pas. Ça veut dire quoi vraiment en fait, exactement, ça veut dire quoi ça? Et pourquoi Dieu demande-t-il des adorateurs en esprit, en vérité? J'aimerais que vous puissiez venir avec moi dans Jean 4, quelques versets qui vont nous conduire pour ce message. Jean 4, versets 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dans ce passage qui est très connu, cette femme samaritaine qui va demander de l'eau, les disciples et Jésus remontent sur la Galilée, sur la terre du Seigneur. Mais pour cette région de la Judée à la Galilée, ils doivent passer par la Samarie. Et la Samarie est un lieu qui n'est pas apprécié des Juifs, des Israélites, les purs sang comme les purs Genevois. Il n'y en a plus beaucoup de toute façon. Et là, ils se disent non, eux, ils ont été métissés, ils ont fait des mélanges avec d'autres dieux sous le régime du roi assyrien. Et en fait, ils sont devenus idolâtres. Ils ont même placé sur une montagne un lieu d'adoration qui venait faire concurrence au lieu d'adoration à Jérusalem. Pour les disciples, et on le lit avant, après, il ne faut surtout pas passer par là, et il ne faut surtout, surtout pas parler à un des Samaritains, et encore moins parler à une femme. Encore moins. Et pourtant Jésus, lui, ne va pas s'arrêter à ça. Lui, il va passer parce qu'il est là. Moi, j'ai quelque chose à faire ici. Moi, je dois me révéler ici. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent à adorer le vrai Dieu. Mais cette femme, c'est vrai pour le moment, elle est perdue. Elle est perdue. Sous le régime de ses ancêtres idolâtres, elle ne connaît pas Jésus. Et toi, et moi, est-ce qu'on connaît celui qu'on adore ? Est-ce qu'on connaît celui pour qui on lève les mains le matin, le soir, la journée, ou peut-être c'est que le dimanche pour certains d'entre vous, vous venez le dimanche, alléluia, alléluia, et le reste de la semaine, alléluia, alléluia. Je ne sais pas de quelle manière vous adorez, mais est-ce que d'abord vous le connaissez ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous le connaissez ? Écoutez ce qu'il va dire. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, on a de nombreuses technologies, et une de celles que j'aime bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut peut-être se méfier, c'est TripAdvisor. Est-ce que vous connaissez TripAdvisor ? Levez la main ceux qui sont avec moi. C'est-à-dire ceux qui ont plus de 60 ans, vous connaissez aussi ? Magnifique. Si jamais je peux vous expliquer comment ça marche, c'est très simple. Vous cherchez un lieu pour aller, un restaurant, etc. Et vous allez donner une critique et vous allez le juger, en fait. Et vous allez donner des louanges à un restaurant. Celui-là, il est trop bien, je mets 5 étoiles, il est top. Et en fait, vous êtes là, vous vous réjouissez. Et vous êtes là, celui-là, il est trop bien. Et c'est comme si je vais dire, Thierry, va dans ce restaurant, il est incroyable. Les notations sont bien. Et moi, je te recommande, je te fais les louanges de ce restaurant. Et deux semaines après, j'apprends, en fait, que dans ce restaurant, en fait, ils travaillent avec des produits surgelés, que les produits ne sont pas frais, que rien n'est comme ce qu'on me disait. En fin de compte, c'était des mensonges. Ils ont fait une apparence, mais je ne connaissais pas, je croyais connaître, mais en fin de compte, je ne connaissais pas. Ça nous arrive, mais ça peut aussi arriver l'effet inverse, vous savez. On s'intéresse à quelque chose, et je veux dire, pareil, un restaurant, celui-là, il ne paye pas de mine, mais vous allez vous gratter, vous voyez derrière des cuisiniers passionnés, une cuisine raffinée. Mais vous avez dû prendre le temps de connaître. Ça arrive. Des fois, on pense qu'au début, tout est merveilleux. En grattant, on voit que ce n'est pas la même chose. Et inversement, quand on cherche, on va vraiment découvrir la vérité. Dans quelle mesure connaissons-nous Jésus ? Avons-nous pris le temps de nous asseoir avec lui et apprendre à le connaître ? Combien d'heures passez-vous assis avec Jésus ? 1h30, 2h le dimanche ? Pas là pour vous juger, vous inquiétez pas. Ce n'est pas moi qui juge, c'est lui. Mais combien d'heures passez-vous assis avec Jésus, à lire sa biographie si merveilleuse ? Tous les jours, vous pouvez lire sa biographie, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle parle personnellement, parce qu'elle est vivante. Ce n'est pas un livre, c'est une biographie vivante du Dieu d'éternité, de celui qui a créé la terre, l'univers et tout ce qui est sur cette terre. Est-ce que vous connaissez sa biographie ? Est-ce que vous lisez même les italiques et les commentaires ? Peut-être, peut-être pas. Connaissons-nous sa manière d'agir, ses plans pour nous ? Pensez-vous qu'il est possible de faire les louanges de quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Comme ce restaurant, peut-être j'ai juste dit « oui, oui, c'est très bien, on m'a dit que… » Mais moi, je ne le connais pas, mais c'est très bien, tout le monde dit que c'est très bien. Comment est-il possible de donner les louanges de Dieu si vous ne le connaissez pas personnellement ? Comment pouvez-vous adorer Jésus si vous ne le connaissez pas ? Dites-moi comment vous le faites, ce n'est pas possible. Il est impossible d'adorer le Seigneur sans le connaître. Et j'aime bien prendre l'exemple de l'Église. Vous savez, mon dernier message, c'était « Soyez les bienvenus ». J'ai peut-être sonné un peu les cloches des uns et des autres et je ne sais pas ceux qui sont arrivés à l'heure, vous avez vu, la jeunesse vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous avez pris une nouvelle place? C'était marqué. Essayez de vous asseoir à quelque part d'autre. Qui c'est qui a essayé depuis, allez, qui c'est qui a essayé depuis 3 semaines de changer de place? Quelques personnes? Magnifique. Soyez bénis et j'espère que cette place vous a apporté la prospérité dans la connaissance d'un frère et d'une sœur qui va pouvoir vous bénir ainsi que vous allez pouvoir la bénir. L'église est un lieu propice pour l'adoration. Certes, vous avez vu comment on était porté. Merci à cette louange qui est tellement bénie. Merci beaucoup. C'est du temps de travail, c'est de la consécration. La louange, ce n'est pas juste appuyer sur des cordes. L'église, ce lieu propice pour grandir dans notre caractère. Un lieu où nous devrions, dimanche après dimanche, pratiquer, devenir les praticiens de la parole, les praticiens de l'adoration. Non seulement avec la bouche dans les louanges, mais aussi dans les actes. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, moi y compris, moi doublement compris, avec passablement de ratures, des échecs, mais tout de même avec une bonne volonté. Mais j'aimerais vous dire une chose qu'il ne faut pas faire, par contre, avec le regard face à l'Église. Quand vous venez à l'Église, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Mais j'aimerais aussi vous dire, ne pensez pas que Dieu est comme celui qui est assis à côté de vous, à gauche ou à droite. Dieu est en-delà. Dieu est bien plus grand. Bien sûr, on cherche à lui ressembler. Bien sûr, on cherche à lui ressembler. C'est notre désir le plus profond, en tout cas le mien. Mais Dieu n'est pas comme nous. Donc ne comparez pas Dieu à votre voisin. Parce que si vous avez été déçu, vous allez dire « Ouais, mais à l'église, de toute façon, ils sont tous comme ci, tous comme ça. Dieu, il est comme ça. » Non ! C'est faux. Dieu n'est pas comme ça. On cherche à lui ressembler, certes, mais imparfaitement. Imparfaitement. Ésaïe le dit, en effet, dans Ésaïe 55, verset 8, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » On peut imaginer faire comme l'Éternel, on peut, mais ce n'est pas pareil. Il ne va pas agir de la même manière. Ses pensées pour nous ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir pour notre prochain. On a beau essayer, ça ne sera pas la même chose. Mais on continue d'essayer. Amen ? C'est bien. Dieu nous a créés à son image. Gloire à Dieu, c'est une vérité, mais nous ne sommes pas Dieu pour autant. Et cette femme samaritaine ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle en avait entendu parler, elle était venue plutôt dans une sorte d'idolâtrie des dieux, mais c'était le Dieu de la terre, de sa terre. Ce n'était pas le Dieu vivant, celui qui ouvre les mers, qui trace un chemin dans le désert. Ce n'était pas ce Dieu-là. Elle n'avait pas de relation avec ce Dieu-là. Elle voyait dans l'adoration plutôt des lieux sacrés, des sacrifices, des rites, mais rien qui puisse lui donner une raison de se réjouir et de tout abandonner. Mais là, cette rencontre, là, à ce moment-là, assise au chaud, à l'heure de midi, pour ne pas se faire voir de ses autres sœurs, parce qu'elle venait normalement le matin et le soir, elle vient à midi pour se cacher, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en règle. Là, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Et dans sa conversation, elle va parler de l'adoration. Tout de suite, « Ouais, vous vous adorez !» Parce que Jésus vient de lui révéler qui elle était. Elle fait « Ah, le prophète, vous vous adorez sous les montagnes !» Il lui dit « Non, tu n'as rien compris, ma fille. Peu importe la montagne, peu importe Jérusalem, Jésus, il est partout. Et je suis là pour toi. » Il lui dit « Je suis là pour toi. Je veux te montrer qui je suis, je veux me révéler à toi, que tu puisses m'adorer. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Il va lui dire ça. Nous adorons celui qui est. Il n'y a que Jésus qui puisse sauver. Vos œuvres, vos richesses et tout autre paria ne feront rien. Seulement Jésus. Et il est en train de dire, le salut vient des Juifs, le salut vient de Jésus-Christ. Ce Nazaréen, le Juif, Jésus, le Juif qui est venu nous sauver. Je suis le seul Dieu que tu dois adorer. Je suis celui qui apporte le salut. Si tu étais consciente de cette vérité, tu voudrais faire qu'une seule chose, m'adorer de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu voudrais simplement obéir au plus grand des commandements. C'est tout ce que tu voudrais faire si tu savais qui j'étais. Bien sûr, Dieu nous demande de l'adorer, mais nous ne pourrons pas le faire pleinement si nous ne réalisons pas qui il est vraiment. Et quand vous avez un doute sur qui est Jésus, j'ai cherché une vidéo pour introduire ce culte. Alors, elle est en anglais, il y a les sous-titres, mais j'ai trouvé, c'est dur de trouver des vidéos qui manifestent un peu la grandeur de Dieu, et j'ai trouvé que celle-là était vraiment parlante. Vous avez vu, ça envoie quasiment tout est basé sur des versets de la Bible. Quand vous avez un doute sur qui est Jésus, vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rappelez-vous qui a créé l'univers. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère ? Je ne pense pas. Qui est l'auteur de la vie ? Est-ce que c'est nous ? Peut-être un homme, une femme peut faire la vie, mais qui a créé la vie d'abord ? Quel est le miracle de la naissance ? Pour ceux qui sont papa et maman, je pense que vous êtes face à un nouveau-né. C'est un miracle. Amen. Qui est l'incarnation de l'amour ? Qui a tout donné pour vous ? Et que nous, en revanche, nous sommes rien d'autre que de la poussière. C'est ce qui est écrit dans la Genèse. Il fit Adam de poussière, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a soufflé la vie. Qui sommes-nous ? Rappelez-vous de ça. Ça vous aidera peut-être à être sincère, car c'est ce que Dieu demande, que nous soyons sincères, que nous soyons vrais avec lui. Sommes-nous sincères avec celui qu'on adore ? Sommes-nous vrais ? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Ce verset m'a souvent interpellé, même, j'ai envie de dire toujours, et ça faisait longtemps que je voulais prêcher dessus. Je me suis toujours dit, mais est-ce que je suis justement ce type d'adorateur, Jésus ? On chante des fois, oh, je veux t'adorer en esprit, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vraiment je suis celui-ci ? Et des fois, ça fait peur de demander à Dieu, parce qu'il va venir, il va creuser dans les motifs, il va dire, là, t'as levé tes bras, derrière, t'es en colère avec ton voisin. C'était pas de l'adoration. Là, tu faisais semblant, mais ton cœur n'était pas droit devant moi. Combien de fois on a fait ça ? Combien de fois je l'ai fait ? Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Si je vous dis que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux, c'est super. Vous allez dire, « Bravo Nico, super. » Mais si vous ne réalisez pas la réalité que cela signifie, vous allez venir avec une révérence à moitié courbée. On a dit, on plie le genou devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est l'auteur de tout. Et tout est grâce. Tout vient de lui. Lorsque nous nous approchons de lui, est-ce que notre cœur est sincère ? Lorsque nous sommes devant les autres, lorsque je suis là devant vous, faisons-nous semblant de l'adorer comme les gens à côté de nous ? L'influence du groupe, ou est-ce que notre cœur est sincère ? Durant la louange, nous levons les bras, une merveilleuse louange. Nous sommes encouragés par l'unité et la présence de nos frères et de nos sœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ces temps si édifiants et si bons. Mais est-ce que notre cœur est sincère ? Avez-vous demandé au Seigneur, avant de lever vos bras, « Seigneur, sonde mon cœur. Avant que je lève les bras, montre-moi encore ce que je dois te remettre. » Si vous ne faites pas ça, n'oubliez pas, le Seigneur voit. Lorsque vous êtes seul, et je vous pose la question, lorsque je suis seul, et j'aime bien prendre cet exemple parce que la voiture, et j'avoue, je conduis presque pas la voiture parce que je ne suis pas très patient, et spécialement à Genève, lorsque vous conduisez pour venir au culte, et que quelqu'un vous coupe la route, est-ce que vous levez les bras et dites « Alléluia, gloire à toi, Jésus !» Est-ce que vous bénissez celui qui a passé devant vous comme ça ? Est-ce qu'au feu rouge, parce que vous venez d'avoir un feu rouge qui dure 30 secondes, et c'est tellement long, 30 secondes, vous êtes là « Gloire à toi, Jésus, j'ai 30 secondes pour louer ton nom, pour voir les merveilles de ta création. » Ou vous êtes plutôt « Ah, ça me saoule !» Ou lorsque vous êtes confronté aux besoins de quelqu'un dans la rue, que faites-vous ? Bon courage, mon ami, j'espère que tu vas trouver du soutien. Ou lorsqu'un de vos collègues, le pénible ou la pénible, hein, bien entendu, on en a toujours un, c'est peut-être moi ici, vous demande un coup de main, que faites-vous ? Lorsque votre voiture s'est cassée subitement, aïe, que faites-vous ? Ou simplement quand vous êtes dans le tram, pour ceux justement qui ont réfléchi, qui ne prennent pas la voiture, qui sont encore dans le tram en allant au travail ou à l'école pour tous les étudiants qui sont ici, que faites-vous ? Est-ce que votre cœur est droit devant le Seigneur ? Est-ce que vous aimez Jésus dans chacun de ces moments ? Parce que l'adoration, ça veut dire une passion, un amour passionné. C'est ça l'adoration, c'est un amour passionné. Je ne suis pas encore papa, mais je sais que pour ceux qui ont la chance et cette grâce d'être ou bientôt de le devenir, je pense que quand vous avez un bébé dans les mains, vous réalisez « Waouh, combien je l'aime, c'est la prune, tu ne le touches pas !» C'est marrant parce que de toute façon, tous les parents, tu ne touches pas, le mien c'est le plus beau, le mien c'est le plus beau, la mienne c'est la plus belle. Et en soi, tous sont les plus beaux. Vous l'aimez passionnément, vos enfants, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, c'est lui qui a mis ça dans notre cœur, hein, pour en prendre soin. Parce qu'imaginez, si on ne les aimait pas, ce serait difficile pour eux, un nouveau-né, de se débrouiller tout seul. Je vous rappelle que toutes nos pensées seront mises à la lumière devant Jésus et que rien ne sera oublié. Vos pensées, vos paroles, et souvent je me dis, Seigneur, ouf, attention. Protège la bouche, protège la porte de mes lèvres, dit le psaume 141 ou 143, je confonds toujours, mais peu importe. Protège mes paroles, protège mes gestes, car chacun de vos gestes, de vos pensées, vous pensez que personne ne connaît vos pensées, Jésus les connaît. Chacune de vos pensées devront être mises à la lumière devant Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que les motifs les plus profonds ne sont pas cachés aux yeux de l'Éternel. Et c'est exactement ce que Jésus dit dans ce verset. Je cherche des personnes qui m'aiment et m'adorent sincèrement, en esprit et en vérité. Parce que le mot esprit, c'est intéressant en cherchant, on aime le grec, on aime l'hébreu, surtout le grec de chez pasteur Jean-Paul. Pneuma en anglais, pneumatologie, j'avais appris ça à l'école, c'est l'étude du Saint-Esprit. Mais dans la traduction, c'est le mot donc pneuma, mais aussi qui signifie le principe vital pour l'homme, soit son cœur ou notre âme. Donc ça veut dire, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, vous y êtes déjà, non? C'est juste. Mais aussi, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit. Pneuma, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de l'adorer. Parce que personne ne peut adorer Jésus s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas adorer Jésus si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Mais c'est lui qui nous permet de l'adorer pleinement. Parce qu'on dit, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit vient et il intercède pour nous. Il vient et nous permet de glorifier le Seigneur, parce qu'il sait comment rendre gloire à son Dieu. Amen. L'Esprit est venu pour glorifier Jésus. Et la vérité dans tout ça, la vérité du mot grec aussi, altheia, ce qui est vrai, quelle que soit la considération, une seule chose est vraie. Une seule chose est vraie. Laquelle ? La parole de Dieu. La parole est la vérité. Jésus est la parole. Il est la vérité incarnée. Et la vérité nous a franchis. Cela veut aussi dire que notre adoration doit correspondre aux enseignements de la Bible. Encore une fois, je vous rappelle, nous ne sommes pas ici juste pour vous prendre 30, 35 minutes de votre temps. Nous sommes là pour vous enseigner à appliquer, à vivre selon ce que Dieu nous enseigne. Amen. De tout mon cœur, mais aussi selon la parole. Ça veut dire dans notre comportement. Et là, ça devient difficile. Là, ça devient difficile dans notre comportement. C'est facile avec peut-être les paroles, mais comment c'est dans nos comportements? Est-ce que notre comportement est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que je l'adore selon la vérité? Et est-ce que mes gestes, est-ce que mon amour se manifeste envers les autres? Parce qu'à la fin, c'est ça, adorer le Seigneur. C'est manifester l'amour pour les uns et les autres. C'est ça. Ça revient toujours à la même chose, mes chers frères et sœurs, c'est ça. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça, adorer le Seigneur. C'est tout. Mais c'est difficile. Et oui, c'est difficile, n'est-ce pas? Levez la main si vous êtes d'accord avec moi, c'est difficile. Tous ceux qui ne lèvent pas la main, vous êtes menteurs? Ok. Oh, il est dur, Nico, il abuse. L'adoration est une offrande. Une offrande, quelque chose qui va nous coûter. David, dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 21-24, va être confronté à cette réalité. Envoyé dans une région de Gad pour trouver un endroit, acheter un terrain pour construire un hôtel pour le Seigneur, il arrive vers ce monsieur du nom d'Ornan. Et écoutez ce qu'il dit. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne coûte rien. » Vous savez quoi? L'adoration de votre frère, de votre sœur, ne vous amènera pas au ciel. C'est votre adoration que le Seigneur cherche. L'holocauste signifie simplement une offrande, mais une offrande qui est entièrement consommée et consumée par le feu. Il ne reste plus rien. Quand vous avez donné quelque chose à l'Éternel, il ne reste plus rien. C'est-à-dire que ce que vous donnez, vous êtes là, je ne peux pas reprendre un petit peu? Non, non, si tu veux me suivre, laisse les morts enterrer les morts. Viens et laisse tout, tu donnes tout. C'est ça, il est en train de dire ça. Et David l'a bien compris. Il dit, je ne veux surtout pas donner quelque chose qui n'est pas à moi, qui ne me coûte rien. Ça serait facile. Ce monsieur Ornan lui proposait, je te donne tout. Non, 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 ça me coûte. Je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux t'acheter la valeur. Je veux que ça me coûte parce que ma vie, pour le Seigneur, elle est consacrée. Et ça te coûte. Cela représente un don total et sans retour qui sera perdu pour l'homme qui l'offre. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour le Seigneur ? En effet, il est évident que l'adoration qui plaît au Seigneur va nous coûter quelque chose. L'amour coûte, n'est-ce pas ? L'amour coûte, tous ceux qui ont été amoureux une fois. Nous souffrons parce que nous aimons. Aïe, 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 elle ne m'a pas écrit le même message, oh Seigneur. Oh, puis tu vois, les fleurs, est-ce que ça va lui plaire ? On souffre parce qu'on aime. C'est drôle quand même, c'est quand même un peu... Seigneur, bah, si tu nous fais aimer, ça pourrait être c'est tellement simple. Mais non, l'amour coûte. L'amour coûte. Nous ne comptons pas parce que nous aimons. Nous allons plus loin parce que nous aimons. Notre amour pour quelqu'un se traduira toujours par des sacrifices. Amen. Lundi, c'est-à-dire demain, nous fêterons 2 ans de mariage avec Mélodie. Et c'est merveilleux, et en même temps, ça me coûte, comme ça lui coûte aussi. Mais c'est beau, et je suis en train de dire ça, mais c'est le produit de la sanctification, gloire à Dieu. Merci, mais combien c'est bon. Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. En d'autres termes, Dieu demande des personnes qui sont prêtes à tout pour lui et qui ne reculeront pas devant quelque chose qui leur coûtera. Lorsque j'ai décidé de revenir au Seigneur, et ça fait déjà maintenant plus de 9 ans, la réponse était rapide, c'était oui, par rapport à une décision que je devais prendre, qui allait me coûter, c'est clair qu'elle allait me coûter, elle m'a coûté. Mais elle ne m'a pas coûté seulement ma décision du moment, une rupture avec une fille avec qui j'étais, elle a coûté plus des amis qui se sont éloignés de moi, des gens qui m'ont critiqué, un confort qui s'est perdu, etc., etc. L'amour coûte. Votre choix et votre adoration pour le Seigneur va vous coûter, mes chers amis, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que le Seigneur va vous donner tout ce que vous demandez. D'abord, il aimerait lui dire, qu'est-ce que tu es prêt à me donner ? C'est très simple, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi tant, je vais frotter, mais ça ne marche pas. Seigneur, donne-moi ça, mais qu'est-ce que tu m'as donné ? Qu'est-ce que tu m'as donné ? L'amour coûte, et votre adoration pour le Seigneur va coûter, c'est une offrande complète. Notre vie doit être un sacrifice complet pour lui. Mais est-ce que la perte de ces choses, lorsqu'on aime passionnément, est-ce qu'elle est vraiment une perte ? Lorsque vous aimez tellement, vous ne comptez pas. Je passerai des heures justement près de ma femme, et je sais qu'elle est plus importante que le ministère, que ma place ici à l'église, donc si vous ne me voyez pas des fois, c'est que je suis avec ma femme. Et c'est très important de mettre les personnes à la bonne place. Jésus premier, ensuite votre femme, vos maris, vos enfants, etc. Pas le travail d'abord. Jésus d'abord. Lorsque vous vivez ça, votre coût ne sera pas une perte, votre offrande ne sera pas une perte, mais un gain, car nous gagnerons la présence de Dieu et un cœur en paix d'avoir fait ce que nous devions naturellement faire. C'est tout ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, il n'est plus question de sacrifice. Il y en a eu un seul, Jésus suffit. Mais il est question de donner. Notre vie entièrement, notre amour sans limite, notre louange, notre humilité, notre repentance, notre générosité, nos prières, notre service pour les autres, etc. La vraie adoration nous coûtera toujours quelque chose. Elle a coûté à Dieu la vie de son Fils unique, Jésus, crucifié sur une croix pour tes péchés, mes péchés. Voilà ce qu'elle a coûté à Dieu. Qu'allons-nous faire face à cela ? Qu'allons-nous faire face à cela ? Nous devons connaître Jésus personnellement. Aujourd'hui, je donne déjà un appel. Ceux qui n'ont pas rencontré Jésus personnellement à la fin, ne partez pas d'ici, je vous en prie. Sans avoir dit, Seigneur, je veux te rencontrer personnellement. Venez vers les conseillers, vers les pasteurs, un frère, une sœur, demandez-lui la prière. Je veux connaître ce Jésus. Pas juste de la théorie, je veux le connaître personnellement. Comme cette femme, lisez la suite de Jean 4. Elle a été transformée et elle a évangélisé toute sa région. Jésus est resté, il a fait des miracles. Amen. Dans un endroit qui était selon les autres idolâtres. Mais Jésus est venu transformé par un cœur qui était disposé. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous pouvez l'adorer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous devons constamment, oh je vous en prie, faites-le, on le fait, les pasteurs le font et on a besoin, constamment lui demander de sonder notre cœur, afin qu'il purifie nos motifs et que notre adoration soit sans compromis. Sans compromis. Seigneur, sonde mon cœur, comme David dira. Sonde mon cœur et connais mes pensées. Et écarte-moi du chemin qui n'est pas le tien. Sonde mon cœur lorsque je fais une action. Sonde mon cœur quand je mets 10 francs dans cette offrande. Est-ce que c'est parce que je le fais avec amour ou c'est parce qu'on m'a dit et je le fais par conscience ? Sonde mon cœur, Jésus. Je veux une adoration pure devant toi. Il faut faire cette prière constamment, mes chers frères et sœurs, constamment. À ce moment, il est possible de lui donner notre vie et tout ce qui l'accompagne sans restriction. Nous sommes libres de l'adorer en esprit et en vérité. Pour terminer, j'aimerais vous lire un témoignage. J'ai emprunté ce livre au pasteur Walter, il y a 2-3 annotations, mais je n'ai pas mis dedans. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années quand j'avais terminé mon école de disciples à Jeunesse en Mission, Crazy Love, Amour Fou. Qui connaît ce livre de Francis Chan? Je fais un peu de pub. Quelques personnes? Je vous encourage vivement, honnêtement, je vous encourage vivement à l'acheter. C'est un livre qui a même pas, c'est 170 pages. C'est très très court, c'est lu très vite, c'est très simple et surtout c'est extrêmement challengeant. Écoutez ce que Francis Chan, pasteur d'une église, maintenant il est itinérant, il n'est plus pasteur de son église, mais écoutez l'église de Cornerstone, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir, c'était à San Francisco. Nous avons démarré l'église de Cornerstone il y a un peu plus de 13 ans. Les premières années, nous donnions environ 4% de notre budget. Au fil des années, ce pourcentage a augmenté. Waouh ! Cette année, nous avons décidé de donner 50% de notre budget. Waouh ! Là, vous devez dire waouh. Et cela parce que nous croyons que Jésus ne plaisantait pas quand il disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si nous cherchons à aimer notre prochain comme nous-mêmes, il est logique de lui offrir au moins la même part que nous utilisons pour nous-mêmes. Amen. Notre projet pour une nouvelle église reflète également notre désir d'aimer les autres. Au départ, nous avions prévu un super bâtiment, mais très coûteux, même pour notre budget. Mais aujourd'hui, nous attendons le permis de construire pour un amphithéâtre de plein air, bien plus économique et de grande capacité. Je sais qu'il ne sera pas toujours confortable de se réunir à l'extérieur, mais nous connaîtrons aussi la joie de savoir que nous sommes assis dans le froid afin que d'autres personnes puissent recevoir une couverture. C'est qu'un des témoignages qu'il y a des gens qui vivent des vies radicales pour le Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Voici le commandement le plus important et le deuxième qui est le même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pourrais le traduire en disant tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu cherche. Aujourd'hui, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous choisir? De quelle manière allez-vous décider d'adorer votre Dieu? Merci beaucoup.